qu'il y a largement le temps.
Bien. Alors, avant de, pour essayer d'introduire cette dernière phase, je voudrais faire quelques remarques très courtes sur plusieurs points. Donc, d'abord, qui seront des remarques d'un non-historien, donc qui n'est pas engagé, à la même titre que vous, dans les discussions sur la question de la gestion, la communication des archives. Bien, moi, ce qui me semble retenir c'est des trois interventions, c'est premièrement un problème de légitimité de l'histoire ouvrière, mais je dirais même plus largement de légitimité de la place des ouvriers dans la société française. Et moi qui m'intéresse beaucoup plus aux productions culturelles, on ne peut qu'être frappé, quand on examine un grand nombre de productions culturelles, par la faible place de l'histoire ouvrière, mais plus largement des ouvriers, dans un grand nombre de productions symboliques. Au fond, je préfère référence à, par exemple, à quelque chose que je regarde en ce moment régulièrement, qui est Un village français. On pourrait s'interroger sur la production de cette série sous cet angle-là. Hein, et je pense qu'on aurait peut-être des surprises, au-delà de l'ensemble des commentaires très élogieux qui sont faits à l'égard de cette série. Donc je crois qu'il y a un premier problème. Le deuxième problème, c'est donc les problèmes de conservation et de transmission tels qu'ils ont été précisés. Ça veut dire qu'il me semble que toutes les personnes qui s'intéressent à la question de la mémoire ouvrière, de l'histoire ouvrière et plus largement des archives, etc., sont donc confrontées à un problème qui, je dirais, qui est un problème de logique externe, c'est-à-dire comment s'adresser au plus grand nombre. Comment le plus grand nombre peut être intéressé, intéressé d'une part pour communiquer les propres archives auxquelles il aurait accès, ou simplement comment il pourrait communiquer les archives qu'il a ou qu'ils ont en leur possession. Et donc, si j'ai bien compris, la conclusion de cette demi-journée, il y a une forme de proposition de collaboration des archives municipales et départementales. Comment, puisque c'est l'intitulé de la demi-journée, quel partenariat ? Donc, comment les différentes associations peuvent collaborer avec elles-mêmes et entre elles, et comment elles peuvent collaborer avec les archives municipales et départementales, hein, sous quelle forme, surtout sous l'angle du fait que ces logiques, ces processus de conservation et de communication sont pris et sont prises dans des contraintes croissantes de professionnalisation, de respect des règles, des normes, etc., etc. Donc voilà ce que je retiens, et compte tenu du fait qu'on a pas mal de temps, eh bien, la parole est ouverte à tous et à toutes, et je m'efforcerai d'en dire le moins possible.
Merci, Alban.
À droite. En premier, je commence par Catherine.
Non, pas monsieur.
Non, je suis désolé.
Alors, c'est vrai que ça pose la question de la place de... des ouvriers dans la société française. Catherine Gauthier, qui travaille sur la mémoire des ouvriers issus de l'immigration et qui travaille aussi avec les archives municipales qui devrait être amenée à travailler aussi avec les archives départementales et des associations de la région. Bon, c'est vrai que donc peu d'histoire, peu de mémoire, et en même temps, quand même, depuis, on va dire, les années 80, peut-être encore, je ne sais pas, faudrait être plus précis, plus vérifié, mais il y a quand même le fait qu'il y a une vague mémorielle qui fait que la figure de l'ouvrier est retravaillée aujourd'hui, re-questionnée. Et alors on peut s'en satisfaire, parce que c'est effectivement, c'était pas suffisamment fait, en tout cas sous la forme actuelle. Alors sans doute du fait de la sociologie qui a un petit peu rattrapé les historiens, enfin qui travaille un peu plus sur cette question-là sans doute. Et puis en même temps, parce que comme la classe ouvrière a tendance à disparaître quand même un petit peu, Il y a un effet de nostalgie et d'esthétisation de la figure ouvrière qui permet que ça se fasse, mais qui en même temps fait que ça ne se fait pas forcément tout le temps dans le bon sens non plus. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de travailler avec des données et des matériaux qui nous viennent des archives, par exemple, parce que, alors moi je suis sociologue justement, et du coup ça permet d'éviter un peu cet écueil de l'esthétisation et du romantisme autour de la figure ouvrière. Bon, ça c'était ma première remarque. La deuxième, c'était que je la fais publiquement, excuse-moi Lionel, mais franchement, Radio Dio aurait peut-être des choses à déposer si ce n'est fait, mais les archives de Radio Dio seraient très précieuses, y compris pour le monde associatif stéphanois. Voilà. Troisième chose, alors je peux évidemment le faire en privé puisqu'on est déjà en contact là-dessus, mais c'est comme à l'école, on dit aux enfants, posez vos questions devant la classe, sinon ce n'est pas intéressant pour tout le monde. Donc avec les archives municipales et l'UVA, j'ai déjà parlé d'un projet en cours sur la question des cafés de quartier comme lieu d'accueil et de mémoire de l'immigration. Et donc quand on a repéré des associations dont on n'est pas très proche mais qu'on soupçonne d'avoir des petits trésors dans leur carton, comment fait-on pour rentrer dans votre petit protocole fort sympathique là et avoir des étudiants sous la main qui travaillent pour nous et dans cette belle réflexion qui est la vôtre?
On fait comme on peut. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est d'aller voir les gens, de parler avec eux. Je crois que, à première vue, on a l'impression de perdre du temps. Ne jamais écrire, ne jamais envoyer de mail. Aller voir les gens, passer un moment avec eux, aller boire un café avec eux et discuter, expliquer son projet et dédramatiser aussi. Parce que quand on dit université, et nous-mêmes, l'UVA, on le ressent, quand on dit université, les gens s'enfuient en courant en disant « Ouh là là, on va me prendre pour un imbécile » ou bien, donc, il faut montrer, et je crois que tout à l'heure, c'est un peu ce que j'essayais de vous montrer, que toutes ces institutions non ronflant, c'est des personnes. Et qu'avec ces personnes, eh ben, si on a des mêmes objectifs ou des objectifs qui se complètent, eh ben, on peut faire des tas de trucs. Donc, oui, c'est vrai, on a des accointances dans certaines associations, mais ça, on peut juste ouvrir certaines portes, quoi. Dire ah ben on vous connaît, on va vous dire la personne à qui vous adressez, mais rien ne vaut le contact entre les personnes et rien ne vaut. Nous sommes beaucoup ici à avoir la chance d'être traités. Profitons de ce temps justement pour parler avec les gens, pour échanger avec les gens, plutôt que d'essayer de les entraîner dans un rapport qui n'est pas un rapport de personne à personne.
Ajouter juste une chose, il y a quand même une petite temporalité à respecter, c'est-à-dire que c'est par année universitaire, donc il faut se manifester auprès de François plutôt vers le mois de juin pour l'année universitaire suivante. Alors, il y a une légère tendance inflationniste de l'opération, c'est-à-dire que l'année dernière, nous avions 100 étudiants, cette année, on en a 140. Ce qui pose des petits soucis d'organisation, nous sommes 5 TD qui se passent évidemment en même temps, sinon c'est pas drôle. Donc 5 personnes. Franchement, au-delà de 140 étudiants, ça devient un peu compliqué. Voilà, c'est quand même une grosse machine, mais en même temps, ça reste très artisanal. Donc voilà, il faut peut-être pas arriver avec 25 associations tout de suite. Hein. Enfin, sinon, nous, on ne suivra plus.
L'association Répagérienne, pour les relations avec les archives, ben les expériences qu'on a eues, ça s'est bien passé. On a eu l'occasion, pour deux usines qui fermaient, de faire conserver les archives de ces sociétés. Et en même temps, on avait par exemple pour une usine, une grosse société de forge, puis on a eu une collaboration aussi intéressante avec le musée de la Mourine à Saint-Martin-la-Plaine qui a pris nos échantillons, hein, de très belles pièces de forge qui étaient une démonstration que les représentants de l'usine montraient à leurs clients. et ça a pu être mis en valeur. Ce que je voulais dire, ce qu'on ressent, c'est que c'est quand même derrière le traitement, il est très long, quoi, le traitement pour le classement. Et donc après, c'est quand même difficile, puisque une dizaine d'années après, ce classement n'est pas toujours fait. Mais je suis quand même très content d'avoir pu faire conserver ce fonds aux archives départementales. Moi, je veux dire, si vous voulez nous rendre service, vous allez être bien sûr aller dans ce sens-là, c'est numériser, mettez en ligne. C'est-à-dire que si vraiment il y a quelque chose qui facilite le travail des associations, c'est de faire ça. Et je m'aperçois même, on citait tout à l'heure ce matin Gallica, mais Gallica, malgré les millions de documents qu'ils ont mis en ligne, ils n'en ont pas mis en ligne un centième, quoi, hein, je veux dire. C'est-à-dire, si on prend même des documents, par exemple, sur les mines de Saint-Étienne, on ne les trouve qu'à Paris, aux Archives nationales. Et je m'en suis aperçu, parce qu'il y a des bureaux d'études comme Géodéris, qui ont travaillé pour les services de l'État, qui ont passé 3 semaines dans les Archives nationales et qui ont pu nous faire profiter d'une partie des documents qu'ils avaient pu trouver là-bas. Mais on s'est aperçu que même, pourtant, les archives départementales sont extrêmement riches sur le sujet, c'est vrai, mais il n'y a pas tout encore. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses encore à Paris. Et à Paris, on ne peut pas y aller. Quand on est de Saint-Étienne, on ne peut pas se permettre de passer 3 semaines à Paris pour aller voir des documents. On peut se permettre d'aller aux archives départementales, c'est très bien. Mais voilà, donc numériser, vous nous rendrez beaucoup service. Et puis mettez en ligne.
Alors, non, si. J'ai quand même une observation. Il faut quand même être réaliste. La numérisation, c'est pas que de prendre une photo. Enfin, je veux dire, il y a tout l'aspect de préparation. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le fond soit, classé. Pièce à pièce, voilà. Il faut qu'il soit classé. Il faut ensuite le numériser. Ensuite, il faut le mettre en ligne. Enfin, je crois qu'il faut imaginer le volume que ça peut représenter. Si vous voulez que l'ensemble des fonds d'archives soient numérisés, archives départementales ou municipales, c'est des dizaines de millions d'euros qu'il faudra mettre sur la table, uniquement pour la Loire. Uniquement pour la Loire. Donc, pour les archives municipales, c'est moins de 1% des fonds qui sont numérisés et en ligne. Je pense que si un jour on arrive à 5%, ça sera déjà le maximum. Tout n'a pas vocation à être numérisé. Parce que humainement et financièrement, c'est déraisonnable. C'est absolument déraisonnable. Et tout n'a pas d'intérêt en plus. Enfin, je veux dire, faut être réaliste. Tout n'a pas d'intérêt non plus. Donc, je comprends bien vos envies. Après, c'est le principe de réalité qui fait que ce n'est pas possible. Ça se fait au fur et à mesure. Il y a des fonds qui sont numérisés. Voilà, mais pour les archives municipales, c'est déjà un beau budget. C'est autour de 20 000 euros par an, la numérisation. 20 000 euros par an. Une vue, en fonction de ce que vous numérisez, une vue de photographie, c'est 2 à 3 euros la vue. Un plan du cadastre, c'est pas cher, hein, c'est 2 euros ou 3 euros la vue. Mais quand vous avez des fonds qui font des centaines de milliers de vues, alors c'est pas 1 euro, hein, c'est peut-être 15, 20 centimes, enfin bon, vous arrivez vite à des sommes délirantes. Voilà. Et puis derrière, il faut des gens, enfin, c'est pas tout numérisé. Enfin, voilà, donc c'est vrai que je comprends les attentes. Après, je pense que c'est vrai que c'est un peu comme les grandes surfaces. On ouvre le matin à 8h30, tout est prêt, mais on n'imagine pas le travail qu'il y avait avant. Il y a des gens qui sont allés depuis 5h du matin avant. Voilà. Et la numérisation, un fonds qui est mis en ligne, il faut imaginer que c'est souvent 2 à 3 ans de travail en amont. Plus des dizaines de milliers d'euros, évidemment, hors masse salariale. Voilà. Donc, je sais pas si...
Je peux me permettre deux réflexions. La première, c'est que j'ai commencé à fréquenter beaucoup les archives il y a une vingtaine d'années. Elles étaient à l'époque beaucoup encombrées par les généalogistes. Je leur en veux pas, mais enfin bon. C'est vrai que la numérisation nous a permis de retrouver une certaine sérénité. Bon, là, je suis très méchant. Cela dit, c'est intéressant, la numérisation, ça a beaucoup d'intérêt. Et en même temps, je rebondis un petit peu sur ce que disait Solange tout à l'heure. Les archives, c'est aussi un lieu de convivialité, de rencontre entre chercheurs, et ça a son importance. Et puis tous les documents n'ont pas une importance décisive. Hein, bon, mais c'est vrai qu'il y a certains documents. Moi, je pense par exemple, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur les bordereaux des élections municipales de 1945. Il n'y a que les archives municipales qui les ont, alors que normalement, ils devraient être aussi aux archives départementales. Ce serait bien de les numériser, ne serait-ce que par mesure de précaution.
On n'a pas le droit de les mettre en ligne.
Ah oui, non, voilà. D'accord, mais bon, déjà... Moi, je parle des résultats, je ne parle pas des listes, je parle des résultats, par bureau. Enfin bon. J'avais deux remarques à faire. Enfin, en plus, avant de donner... Donc, je vais relever dans ce qu'a dit Christelle ce matin, l'importance de ne pas réduire les singularités de chaque association. Et je rajouterais, mais se donner des thèmes communs. C'est un petit peu ce sur quoi on a travaillé aujourd'hui, et surtout, mais à travers tout ce qui a été dit, je crois que ressort cette idée qu'il est important de se donner des thèmes communs. Et l'exemple de l'université de la vie associative, sur ce plan-là, me semble tout à fait révélateur. Et donc, je crois que, d'après ce que j'ai pu sentir, entendre, il y a un besoin qui se fait sentir, c'est celui d'une mutualisation nécessaire au niveau de l'accompagnement technique et scientifique. Alors, on vient de voir les archives nous proposer un certain nombre de choses, notamment une assistance technique, resterait à définir effectivement les conditions techniques. Et puis aussi au niveau, c'est Madame Chazalon qui en a parlé beaucoup ce matin, de la communication, et aussi Henri Destour qui parlait de cette question de la communication. Alors, je pense que c'est en s'unissant qu'on pourrait peut-être arriver à faire des choses plus efficaces. Alors, se posent à partir de là trois questions. D'abord, dans quel espace ? Est-ce qu'on se limite à la métropole ? Est-ce qu'on ajoute le PILA ? C'est une question qui avait été posée, parce qu'il y a une complémentarité, bien sûr, historique entre le système industriel des vallées et celui des plateaux. Est-ce qu'on ajoute l'Isingelais ? Alors, la réforme territoriale va peut-être nous ramener la Haute-Loire dans la région et supprimer cette frontière qui a fait pas mal de problèmes à la région stéphanoise. Deuxième remarque, avec quelle structure ? Alors, je crois qu'il faut, et peut-être que si on s'y met tous à crier bien fort, militer pour la création du pays d'art et d'histoire. Ça, je pense que ce serait un levier tout à fait important. Restent enfin les moyens, et ça, c'est un autre problème dans le contexte actuel. Non, je parle des cris. Je parle pas des... Bon, voilà.
Je reviens sur un sujet qui est celui de l'indexation des collections. Cela permettrait à chaque association d'être face à sa collection, à sa connaissance, parce que c'est déjà un grand sujet, connaître ce que l'on possède, et devant ses responsabilités. Et puis alors peut-être, s'il y a accompagnement, comme on le disait tout à l'heure, à propos de cette indexation, pourquoi pas une journée de formation ? Est-ce que ça peut se permettre en une journée ? Avoir ensuite un projet qui serait un projet fédérateur, comme le disait Cyril Longin, et qui permettrait, comme le disait Roland Fournel, d'être facile d'accès par l'intermédiaire d'Internet. Est-ce que c'est une proposition qu'on peut retenir aujourd'hui ?
La question est posée aux archives. Elle est posée à nous tous. Ah, bah alors, qui veut y répondre ?
Moi, vu l'importance que j'attache l'importance que ça aura pour le public, je dégagerai les moyens s'il faut faire une journée de formation. Ça ne me posera pas de problème. En revanche, il y a déjà une première question à se poser, c'est quel niveau d'indexation, et est-ce qu'il faut une journée entière ? Peut-être qu'il y a un premier niveau où une demi-journée peut suffire. Et puis ensuite, si certains veulent aller plus loin, dans ce cas-là, on verra faire des choses peut-être plus poussées. Parce que déjà, honnêtement, on n'a même pas un état des lieux. On n'a même pas un état des lieux. On ne sait même pas telle association, enfin tel fonds d'usine. Moi, c'est un historien, parce que c'est souvent ça. J'ai des historiens qui me disent, ah bah, tiens, je m'intéresse à l'histoire de machin chose, ou mon ancêtre a travaillé dans telle usine. Où est-ce que je peux trouver les archives actuellement? Je suis obligée de lui dire, c'est pas chez nous. Les archives municipales, s'il n'y est pas, on connaît un peu. Voilà. Et puis, je lui réponds, alors qu'en fait, c'est peut-être dans une association et qu'il serait peut-être très heureux d'entrer en contact avec une association. Donc, il y a au moins déjà ce premier niveau d'état des lieux. Ensuite, il y a un deuxième niveau un peu plus poussé d'indexation. Et puis, il y a peut-être un troisième niveau encore plus poussé. Mais je crois qu'on peut déjà... Enfin, moi, si on arrive déjà à faire un état des lieux, je trouve que ça serait très, très utile pour le public, il me semble. Hein. Voilà. Et donc ensuite, bon, des états des lieux, il y en a de différents types. Hein. On peut pousser un peu plus loin le niveau d'information, mais je pense que ça reste à discuter.
Oui, ça pourrait donc se faire sous la forme d'une première rencontre, demi-journée, hein, peut-être ça peut suffire, dans le premier niveau, de rédaction d'une fiche d'identification par fonds ou par détenteur, en définissant déjà qui est détenteur, où ça se trouve, dans quelles conditions on a accès, si c'est classé ou pas, identifié, si c'est une boîte, voilà, simplement, ou si c'est 40 mètres, de quoi ça parle, quel est le contenu, quelle est la provenance du fonds, qui est le propriétaire éventuellement. Rien que déjà ce premier niveau serait formidable. Et d'avoir une connaissance, on va dire, fine. Alors ça, évidemment, ça sera ni exhaustif ni complet, mais déjà une première idée de ce qu'il y a sur le territoire. Après, effectivement, il faut définir le territoire. Ça sera déjà ça. Et puis, après, une mise en réseau. C'est-à-dire qu'au moins que chacun, différentes associations, sache ce qu'a l'autre. Et à partir de là aussi, on pourrait définir des axes de partenariat, de travaux communs. Enfin, c'est déjà une première chose. Et dans la perspective, effectivement, du pays d'art et d'histoire, c'est essentiel. Et puis Sandrine, je pense qu'elle gagne 6 mois de travail, là. Non, elle n'est pas contente si je dis ça, mais... voilà, c'est vraiment la première chose. Et puis après, on peut évidemment former peut-être plus longuement, parce que là, oui, une demi-journée ou une journée, ça me paraît un peu juste, sur le classement. Alors, on l'a fait un petit peu avec l'UVA. Je vois ma collègue Fabienne qui est là. C'était 3, et puis avec Nicole, 3 demi-journées, il me semble. C'est déjà bien. Enfin, je pense que à Villars, ils étaient plutôt très contents de pouvoir avoir un certain nombre d'éléments. Évidemment, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais vous ne deviendrez pas des archivistes professionnels au bout de 3 demi-journées. En même temps, c'est pas ce qu'on vous demande. Mais au moins quelques premiers éléments. Après, on peut aller évidemment beaucoup plus loin pour vous aider à classer. Mais bon, le but, c'est pas d'aller à ce niveau-là, hein, de toute façon. Après, on peut, je sais pas, faire des appels à la collecte.
Alors, je crois qu'il faudrait. Ça me fait penser effectivement ce que dit Cyril, qu'il y a sans doute deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est celui de la réflexion, de la collecte des informations, des inventaires qui sont des documents que possèdent les associations. Bon, ça, c'est déjà des documents qui sont conservés, des archives qui sont conservées, plus ou moins bien, peu importe, mais elles sont identifiées, elles mériteraient d'être identifiées de façon plus claire et surtout que cette identification soit communicable et accessible. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point qui est un peu en filigrane, qui est celui de sensibiliser le commun des mortels, je ne trouve pas d'autre expression, enfin les habitants de toutes nos villes, de tous nos villages, sur le fait qu'ils ont peut-être quelques documents qui pourraient être intéressants pour l'historien. Alors la question, moi ce qui me taraude un peu, c'est ce qui a été fait pour 1914. Alors je sais que les services d'archives sont overbookés, qu'ils n'ont plus de place, etc. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer l'idée d'un appel à sensibilisant les gens à ce qu'ils nous fassent connaître qu'ils ont quelque chose chez eux et que à ce moment-là on puisse échanger avec eux, aller les voir en leur disant surtout vous le conservez bien chez vous, mais on sait que on peut rédiger une fiche d'identité, telle personne à tel endroit, à tel document, qui pourrait servir pour telle et telle chose. Donc, peut-être que ça pourrait être un moyen pour éviter l'engorgement des silos d'archives. Mais si je dis ça, c'est qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Il y a plein de gens qui sont extrêmement âgés ou qui ont déjà, dont les documents sont déjà passés entre les mains de la deuxième, voire de la troisième génération. Et là, on est vraiment dans le très, très, très grand danger. Et bon, on a vu, ça a été évoqué, des cas d'archives récupérées dans des bennes, récupérées à l'autre bout de la France, etc. Donc, il y a une alerte à lancer sur ce plan-là. Alors, il y a des associations qui voilà, le CEDMO, par exemple, a montré ce matin, dans le réseau des militants communistes, il participe un petit peu à ce travail. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas le généraliser à l'échelle de tout le bassin ? Enfin, je veux dire, sonner un peu le cri d'alarme. Oui ?
J'imagine que pour réaliser cette étape-là, il y a une méthodologie très précise. La collecte des informations auprès de la population.
Alors moi, je crois ce qui est important, ce serait d'abord de laisser, de conserver l'étape des associations. Ce serait bien que chaque association travaille sur son territoire, mais qu'on soit en relation avec les différents services d'archives. Et à ce moment-là, on propose, comme vous dites, une méthodologie pour une fiche d'identification des documents. C'est ça?
Oui, mais ma question... moi, par exemple, je voulais trouver des documents, des infos. J'ai demandé à la tribune Le Progrès de faire passer une annonce. Je ne sais pas si c'est... Mais ça n'a donné aucun résultat. Je l'ai fait trois fois et ça n'a donné aucun résultat. Ouais. J'imagine qu'il y a d'autres moyens plus pertinents que celui-là. C'est ça qui m'interroge.
Oui, oui, oui.
Vous voyez ? À part aller dans les maisons de retraite, pour notre cas, interroger les anciennes retresseuses. Voilà. Parce que ça, pour nous, c'est vraiment un problème. Mmh. C'est vraiment un problème. C'est la méthodologie. Comment faire ? Oui. Comment ?
Oui, le bulletin. Loire Magazine. Loire Magazine. Oui, peut-être vous pouvez nous dire quelques mots des conditions de la collecte, de la grande collecte.
Oui. La grande collecte,
oui, en quelques
donc
mots,
c'est une initiative qui a été lancée au niveau national par la mission pour le centenaire de la Grande Guerre. On a bénéficié donc de toute l'annonce au niveau national qu'elle a faite, c'est-à-dire avec des spots à la télévision, des flashs dans les radios, des émissions, etc. Les services locaux, les services d'archives locaux étaient invités à s'inscrire sur le site internet de la mission vers lequel toute cette information renvoyait. Donc, par ce biais-là, les gens sont venus chez nous présenter leurs documents. Mais la formation était tellement bien passée qu'il y en a qui se sont présentés aussi dans des services d'archives qui ne s'étaient pas inscrits. Mais voilà, donc. Ça a été très riche. Ça a été quand même très prenant puisqu'on ne reçoit pas quelqu'un qui apporte des documents de famille. Bonjour monsieur, signez ce document-là, vous nous laissez ces documents, puis on vous rappelle qu'on sera numérisé. Hein, donc, c'était des entretiens. D'abord parce qu'on interroge la personne sur tout le contexte des documents, parce que ça ne sert à rien d'avoir quelques dessins ou un peu de correspondance si on ne sait pas quelle famille, qui, quand, pourquoi, etc., comment ça a été transmis, qui était la personne. Donc il y avait tout ce travail-là. Il y a un certain nombre de personnes qui ont choisi de nous remettre les documents en don. Il y en a beaucoup qui nous les ont remis. C'était par rapport à la guerre de 14, voilà. Et c'était facile. Et puis, il y en a beaucoup qui nous ont prêté pour numérisation. Mais c'est assez long parce que, un par un, document un peu fragile, etc. Donc, nous, on est encore en train de numériser ce qui nous a été remis l'année dernière. Voilà, donc cette année, on s'est inscrit en disant, mais vous prenez rendez-vous. Donc, on a une quinzaine de personnes qui sont présentées, mais on n'a pas fait plus de battage que ça. Voilà. Non, c'est toute la question. Alors ensuite, il y a deux manières, soit faire de la communication via la presse, un magazine comme Loire Magazine ou autre, soit le réseau, et c'est ce que vous disiez, aller voir les gens. Voilà, il faut les connaître. Il faut connaître quelqu'un qui les connaît, ouais, ou qui connaît quelqu'un qui les connaît, etc.
C'est pour ça que les
associations... C'est du temps, en fait, c'est du temps à investir. Ça, c'est du temps à investir. Voilà.
Moi, il me semble, par rapport à votre demande, ce serait moins un problème de technique d'archives que plutôt un problème de quelles sont les techniques ou les procédures d'enquête, soit historiques. Voilà, c'est plutôt dans cette logique-là. Ben, c'est-à-dire trouver du monde, pouvoir mobiliser des réseaux, trouver des gens, comme on dit, par grappe, etc. etc. Donc vous êtes moins confronté à des problèmes de constitution d'archives, encore une fois, que des problèmes de mise en place d'une enquête de type historique, voire sociologique. C'est-à-dire comment je trouve les gens que je veux trouver.
Moi, je voulais juste rajouter que dans la démarche de Pays d'Arrêt d'Histoire, ce que je vous disais tout ce matin, là, il y a un gros temps d'inventaire, d'état des lieux du territoire. Donc là, dans cet état des lieux du territoire, il y aura un état des lieux de seulement physique, c'est-à-dire les lieux repérés, les lieux patrimoniaux, mais aussi les ressources, donc les photographies, les archives. Ça va faire partie de l'élément 1. Avant d'écrire un projet de valorisation de ce territoire-là, il vaut bien falloir qu'on le connaisse. Donc cette fiche méthodologique, elle fait partie du premier temps d'écriture du Pays d'Arrêt. Donc j'attends quand même la validation poétique en décembre, enfin on sait bientôt, hein, demain. Donc c'est vrai que début 15, et je pense que tout le premier semestre 2015, ça va être ça, ça va être des rencontres avec vous tous, avec vos propres réseaux, des appels à candidature, enfin pour pouvoir essayer aussi de flécher les éléments dont on a peu de connaissances. Et cette méthodologie, elle va arriver dans un premier temps comme ça, quoi. Et elle s'enrichira au fur et à mesure des partenariats qu'on fera les uns avec les autres.
Pour rebondir sur votre remarque au sujet de la guerre de 14-18, je pense que les archives à ce sujet-là ne sont pas tellement dans les associations, mais plutôt chez les particuliers. Ce qui fait que le progrès, vous avez dû le voir dans le journal quotidien, a fait toute une campagne justement pour appeler les particuliers à les contacter pour leur fournir des renseignements, ce qui a donné lieu à un certain nombre d'articles qui sont passés une fois ou deux fois par semaine, ça dépend le fonds qu'ils pouvaient avoir. Donc voilà. Mais ça peut fonctionner aussi bien pour chercher des tresseurs. Mais si vous les cherchez sur Rouen, il n'y en aura peut-être pas beaucoup.
Bonjour, Frédéric Zarche. Moi, j'aurais deux ou trois remarques par rapport au sujet. C'est au sujet des archives. C'est effectivement un certain nombre de documents deviennent des archives à partir du moment où l'historien porte son attention sur ces documents. C'est-à-dire que effectivement, on s'aperçoit que quand on veut étudier un certain nombre de domaines de l'histoire économique ou sociale de notre région, on se trouve devant des vides dus à des pertes de documents qui ne seront jamais remplacé. Hein. Voilà. Donc, y a, à mon avis, au niveau des archives, effectivement, on peut souhaiter garder le maximum d'archives, mais on sait très bien que de toute façon, il y a des documents que les gens pensent être des archives et puis qui en réalité n'en constituent pas des archives. Après, je veux dire, c'est toujours le regard de l'historien qui interroge le document, qui peut le faire sortir de son anonymat. Donc, du coup, effectivement, se pose la question surtout des moyens par rapport à un chantier comme ça, c'est-à-dire de collecter les informations, de recenser les informations et de garder les documents pour après pouvoir éventuellement que les historiens s'y intéressent. Voilà. Alors tout n'est pas archive. Hein, je veux dire, il y a des documents qui sont éliminés. Enfin, vous êtes un service d'archives, vous recevez des documents, vous en éliminez. Parfois, ces archives-là auraient intéressé un historien.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'archiviste, il est historien. Hein. Moi, j'ai fait une thèse d'histoire hein, de 2-3 ans. J'ai l'équivalent d'une thèse. Je fais encore de la recherche. Donc, le geste de l'historien, ce dont a besoin un historien, je l'ai pratiqué, je le pratique encore et je le sais. Et je dirais, on est même, par rapport à un historien donné qui est dans une spécialité, on est en lien avec tous les historiens. Donc, en fait, quand on examine un fonds d'archives, on le regarde avec toutes les possibles de l'histoire. Et non seulement et puis quand on ne sait pas si ça va être intéressant ou non, on garde. Dans le doute, c'est pas abstiens-toi, c'est abstiens-toi d'éliminer. Voilà. Ce qui veut dire que déjà, ce qu'on élimine, je vais vous dire la proportion, on élimine entre 90 et 95% de ce qui est produit. Mais on élimine quasiment que des doubles. Voilà. En information, on ne perd quasiment rien. La seule chose qu'on ne perd, c'est quelquefois l'histoire individuelle. Ça, c'est à chacun à garder les documents de son histoire individuelle. Ce n'est pas l'administration qui va le faire. Je prends un exemple, par exemple, tous les dossiers de cartes grises. Voilà. ce sont des archives, puisque c'est le résultat de l'action de quelqu'un. Voilà. On va garder le registre, parce que les gens qui font l'histoire d'une voiture, quand ils ont des voitures anciennes, peuvent vouloir savoir entre quelles mains leur voiture est passée. Voilà. Et puis ça permet de savoir qui a acheté une voiture, quel modèle, etc. Qu'est-ce qu'on trouvait, quel âge avaient les voitures des habitants de Saint-Étienne, etc. Enfin, on peut faire plein d'études. En revanche, le dossier individuel de demande de carte grise, ça, on l'élimine. Voilà. C'est une production d'à peu près 3 ou 4. Enfin, c'était parce que la procédure a changé, une production de à peu près 4 boîtes par jour. Donc, quand je vous dis qu'on en élimine 95%, j'inclus ces 4 boîtes. Tous les dossiers de décision sont tous gardés. Tous les dossiers de décision sont tous gardés, tous les dossiers récapitulatifs sont gardés. Voilà. Quand vous avez une commission dans laquelle il y a 7 ou 8 administrations qui sont présentes, parce qu'elles doivent chacune donner un avis quant à leur spécialité, hein, les services sanitaires, les services fiscaux, les services de la concurrence, la direction du travail donne un avis sur tel ou tel projet. Ça veut dire que dans chacune de ces administrations, on va retrouver le dossier. Voilà. Donc on va en garder qu'un. Et c'est comme ça qu'on arrive à des scores aussi impressionnants que 95%. Mais en fait, on n'élimine pas 95% de l'information. En fait, sauf l'information individuelle, et encore, on garde des échantillons, on garde des spécimens, etc., étudiés avec des statisticiens, sauf vraiment sur l'information individuelle, on part du principe qu'on garde la totalité de l'information. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on n'est pas du domaine de l'archiviste, on a peut-être du mal à comprendre combien l'administration peut faire de double et combien on peut largement dégraisser sans perte pour autant d'informations. Voilà, je voulais apporter ces quelques précisions. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, on va garder des documents en se disant, nous, on ne travaille pas pour l'historien du 21e, mais pour aussi celui du 21e, 22e et 23e siècle, et même au-delà. Hein, voilà. Et quelquefois, on a gardé des fonds sans savoir à quoi ça allait servir. Et puis, tout d'un coup, il y a un historien qui arrive et qui justifie le fait qu'on ait gardé. Hein. Mmh. Voilà. On a des exemples comme ça. Il y a quelqu'un qui faisait... On a tout, quelquefois. Et quelqu'un qui... Alors, c'était un historien de la langue française et il voulait étudier la langue utilisée sur les post-it. Donc, il nous a demandé si on avait des documents avec des post-it. Bon, on a pu lui en fournir. Voilà.
Alors, si je peux juste poursuivre ma réflexion, c'est... Moi, je travaille sur l'histoire de l'immigration et sur l'histoire du commerce des immigrés à Saint-Étienne. Je cherche des choses sur les patentes. Si vous avez des fonds d'archives sur les patentes des années 20 et des années 30, moi, je serais tout à fait heureux de consulter, par exemple, les documents fiscaux, par exemple, relatifs à ces commerces.
Oui, normalement, on les a. Alors, ouais. Sauf si les accidents de l'histoire ont fait que ça a disparu. Voilà. Hein, mais sinon, normalement, on garde les patentes. Oui.
D'accord.
Oui, moi je voulais juste faire deux petites remarques pour donner un contrepoint à ce qui a été dit jusqu'à présent. Alors une première sur le numérique, où pour avoir travaillé plusieurs fois avec des collégiens ou des lycéens, on se rend compte que le numérique a un côté pervers aussi. C'est-à-dire que s'ils ne trouvent pas sur Internet les informations, il n'existe plus rien ailleurs. Hein. Il y aurait besoin aussi, je pense, je sais que les archives le font déjà, mais de faire connaître les fonds d'archives. Je me bats régulièrement avec les professeurs d'histoire géo pour leur dire, mais sortez vos élèves, amenez-les dans les fonds d'archives, qu'ils aient au moins connaissance de l'existence et que tout ne se passe pas sur Internet. Loin de là. La deuxième remarque, c'était par rapport à la grande collecte et à 14-18, puisque au sein du musée d'art et d'industrie, je travaille aussi sur 14-18 pour la prochaine exposition. Et je me rends compte qu'en fait, la grande collecte à la fois amène des choses dans les fonds d'archives publics et à la fois crée une grande effervescence hors des fonds publics. À la fois parce que des personnes prennent peur de cette grosse machine qui se met en place au niveau national et européen et ne vont surtout pas remettre les fonds qu'ils ont dans leur famille, alors des fonds souvent assez importants, et d'autres, à contrario, vont monnayer très cher ces fonds qui sont vendus en fait de collectionneur à collectionneur, des fonds de correspondance. Enfin, 14-18 a repris une cote marchande. Voilà, donc ça c'est pour les contrepoints. Voilà.
Quand la personne nous prêtait le formulaire qui était prévu et la démarche qui était prévue, c'était que il y avait trois niveaux. Soit je vous autorise à le garder dans vos collections et à le communiquer en salle de lecture, soit je vous autorise à le mettre sur le site des archives départementales, soit je vous autorise à le mettre sur le site Europeana. Et alors, d'un département à un autre, les attitudes ont été très différentes, mais très clairement, dans la Loire, les gens qu'on a reçus ne voulaient pas d'Europeana. En revanche, j'étais tout à fait d'accord pour que ça soit sur le site de la Loire. Donc nous, on a recueilli leurs desiderata et on suivra tout simplement. Voilà. Ce qui est important quand même, c'est d'avoir un rassemblement de ces fonds qui chez nous, étaient un peu en déficit. On avait relativement peu de correspondance. Voilà. Donc ça nous a permis maintenant d'avoir un ensemble de documents qui manquaient un peu, qu'on ne pouvait pas trop offrir aux historiens.
Oui, alors pour revenir sur la collecte de documents, pour vous faire part un petit peu de notre expérience à la Talaudière, on fait paraître dans la publication municipale un petit article et sur l'infoflash, donc il y a un petit feuillet qui paraît tous les mois, une petite annonce. Indiquant que justement on recherche des documents, des objets et à conserver et à mettre en valeur et à valoriser forcément. Et on reçoit des gens donc soit au musée, soit à la mairie, donc qui prennent contact avec nous et donc on rencontre. Alors forcément ça touche pas toutes les personnes qui ont des archives, mais bon, il y a quand même certaines personnes qui nous sollicitent, donc qui soit déposent des objets ou des documents, soit nous les prêtent pour qu'on les numérise. Voilà. C'est à notre échelle, une petite échelle, ça paraît peut-être un peu simpliste, mais bon, c'est le moyen qu'on a trouvé pour trouver des documents. Voilà.
Oui, pourrions-nous revenir sur les conditions de dépôt? Lorsqu'une famille remet à une association ou à un musée des documents, l'association signe une convention avec elle. À ma connaissance, dans l'enquête que nous avons menée avec le Grémos, là, il n'y a qu'une association qui a prévu une condition un petit peu spéciale qui dit... Alors, je dis qui est cette association, c'est le CERPI à l'Orme. Notre association, le CERPI, disparaît, nos fonds seront reversés aux archives départementales. C'est probablement une argucie de légiste, mais ça serait tellement plus simple si on pouvait proposer à un certain nombre d'associations qui le souhaitent une convention de ce type-là.
J'ai vu des musées associatifs vendus aux enchères, hein, parce que c'est tout, l'association n'avait plus les moyens, fait faillite, entre guillemets, je sais pas si, et on vend aux enchères. Hein. Donc effectivement, ce genre de disposition me paraît, c'est pas une protection absolue, hein, mais c'est vraiment important. Une association, il y en a qui sont très anciennes, mais la pérennité d'une association n'est jamais assurée. N'est jamais assuré. Donc c'est pour ça qu'il faut que chaque association effectivement trouve les moyens d'assurer la pérennité au moins de l'objectif qu'elle a suivi. Si sa pérennité elle-même, elle ne peut pas la conserver parce que ça dépend évidemment des adhésions, etc. D'une génération à une autre, les choses évoluent, mais qu'au moins les dispositifs mis en place permettent d'assurer la pérennité de l'objectif, c'est-à-dire la sauvegarde des fonds, leur communication, leur valorisation. Et effectivement, le dispositif est un dispositif que l'on peut voir qui n'est pas exceptionnel en fait. Hein. C'est un type de dispositif qui est assez... qui peut se trouver. Hein.
Oui, je
de Maurice, celui du CEDMO qui est en train quand même d'y travailler. Hein. Alors, c'était pas le cas effectivement jusqu'à il y a peut-être 2 ans. Et donc il y a une reprise, je crois au fur et à mesure, au fil de l'eau, mais Daniel Durand l'a bien dit ce matin, de renégociation, enfin vous corrigerez, vous compléterez, des conventions de dépôt qui deviennent effectivement du don. Et normalement, il y a une mention, c'était dans les projets, en disant que le fonds ensuite aurait vocation potentiellement à être déposé aux archives départementales, parce que c'est plus le cas qu'aux archives municipales par rapport aux fonds conservés. Mais voilà, c'est quelque chose qui tend à se développer quand même.
Justement, on avait pris dans les statuts dès le début, la création, cette précaution, parce qu'on savait bien qu'il risquait d'y avoir des problèmes. Et donc, c'était le CEDMO conserve, mais en cas de difficulté de l'association, on reversera, s'engage à reverser, à vocation à reverser au service public. Et là, maintenant, on est dans la phase suivante.
Sur la question de la collecte des archives ou des informations d'une manière générale, il me semble que il ne faut pas chercher, si la méthodologie va rester la même, il ne faut pas chercher un modèle universel. Celui de la grande collecte, par exemple, à mon point de vue, il ne s'applique pas du tout. Madame évoquait la situation de la Talaudière et des mines de la Chazotte, ou par exemple de la maison des Tressé-Lacet, où on a une cible qui est bien clairement identifiée, on ne ratisse pas tout, et où on sait que pour 98% ou 99% de l'information qu'on va récolter, elle est localisée dans la proximité. C'est-à-dire, la Talaudière, Sorbier, etc., comme une voisine, pareil de l'autre côté. Donc on doit, il me semble peut-être, pouvoir utiliser effectivement les bulletins municipaux des communes voisines, pas simplement de la commune d'implantation ou des choses comme ça, et pas simplement passer une annonce non plus, ça me paraît pas... ça passe inaperçu. Bon, les gens n'ont pas une lecture attentive du bulletin du Conseil général jusqu'à lire la totalité. Non, mais bon, c'est pas pour être désagréable, hein, mais c'est comme ça. Hein. Encore moins de la tribune Le Progrès aujourd'hui, parce qu'on considère que toutes les annonces passent par Internet, Le Bon Coin ou d'autres sites d'annonces. Donc, il me semble que quelque chose qui présente un peu l'activité de ce qu'il fait, avec un rappel de l'activité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait, hein, les gens le font, bien sûr. Mais, et qu'il fasse appel effectivement à la collecte en fonds, ça pourrait être un outil intéressant, au moins pour ces situations-là. Après, des situations beaucoup plus générales, c'est vrai que ça demande peut-être d'autres méthodes, enfin d'autres, disons, dimensions, quoi.
Oui. Je rappelle 2 choses, Henri, par rapport à ce que j'ai dit, parce que je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. La première, c'est que il me semble important que ça se passe à l'échelle des associations, donc du territoire, comme tu l'as dit, et que ce soit les associations soient le réceptacle, l'intermédiaire, l'interface indispensable dans ce travail. Et la deuxième, il ne s'agit pas de collecter matériellement, mais de collecter l'information qu'il existe des documents. Donc là, c'est... Hein? D'accord.
Moi, j'ai... C'est bon, là? Micro. Oui, je voulais juste 2 réflexions. La première concernant ce que dit M. Maguin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, parce qu'on parle d'archives, on parle d'énumération, etc., mais aussi ce qu'on appelle la mémoire orale, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas écrites. Et comme vous dites, là, pousser une porte, aller boire un café avec quelqu'un, puis l'écouter, mais bien entendu, après, on sait un peu ce qu'il raconte. Et ça, c'est vraiment un truc au côté duquel on risque de passer, parce qu'effectivement, il y a des moyens de communication qui sont modernes. On s'écrit, on s'envoie des SMS, et on se voit très peu. Ça, c'est ce que vous avez dit. Et puis les gens se livrent beaucoup plus facilement, notamment les personnes qu'on veut faire témoigner, se livrent beaucoup plus facilement par le contact physique que par un contact écrit, parce qu'ils ont toujours l'impression qu'on va les interpeller, ce qu'ils vont écrire va rester consigné contre eux, etc. Tandis qu'oralement, les choses passent beaucoup plus facilement. La deuxième chose, en ce qui concerne la collaboration, le partenariat entre les associations, pour avoir travaillé dans une association qui œuvrait dans le champ social, mon patron me disait chaque fois qu'on trouvait une procédure, un truc comme ça, attention, l'autre organisme qui travaille comme nous n'en parle pas trop parce qu'on est un peu jaloux de ce qu'on a trouvé et on laisse les autres inventer l'eau chaude. Alors, souvent, ces choses se produisent. Pourquoi ? La plupart du temps, elles sont appuyées par nos ministères de tutelle qui nous demandent, dans les appels à projets, d'avoir quelque chose de plus particulier. Vous voyez ? Et donc, on a toujours envie que les autres copient notre idée. Alors, la question a été résolue, en ce qui nous concerne, par l'adhésion à une fédération. C'est-à-dire que les choses passent beaucoup plus facilement par les fédérations, on parle de mutualisation, etc., que contre les différents organismes, parce qu'on a l'impression qu'ils vont nous prendre notre idée, et puis, ma foi, on a investi là-dedans, et ça ne va rien leur coûter. Je pense que c'est un truc qu'il faudra, contre lesquels, et là, les appels à projets, aussi bien par le Conseil général, est-ce qu'on a un projet sur le plan culturel, sur le champ de l'histoire, etc., et chacun a envie d'avoir son projet qui arrive avant les autres. Et c'est vrai que là, je mets en garde, donc les collègues ici, militants d'association, par rapport à cette tentation, parce que c'est vrai que c'est toujours tentant, on peut faire rentrer quelques subsides dans une association qui en cherche. Voilà, c'était juste une réflexion.
Tu peux rappeler.
J'aimerais. Très vite, je vous remercie. Ce qui a facilité beaucoup la parole, c'est l'intergénérationnel. C'est-à-dire que ce soit des jeunes, des gens qui ont 20, 25 ans, un peu ignorants, un peu curieux, qui ont été voir des personnes qui ont eu plaisir à leur raconter leur expérience et à participer avec eux. Sur le point des concurrences entre associations, bien sûr qu'on connaît. Bon, l'UVA n'est pas une association, c'est un dispositif de l'université. Et à ce titre-là, nous travaillons dans la transparence. C'est-à-dire que si vous voulez des comptes rendus de réunion sur l'expérience que j'ai relatée, ou si vous voulez un exemplaire du protocole d'accord que nous passons avec les associations, bien sûr qu'ils sont à votre disposition. Nous considérons, même si nous ne sommes pas vraiment un service public, nous considérons quand même comme des gens qui font part de leur expérience, parce que les associations risquent bien d'en crever de ce système où chacun cache ses petites affaires, où personne ne cède et où rien ne se mutualise.
Oui, je voulais faire un peu un témoignage personnel. Ça fait quelque temps que je travaille sur ces questions et justement, le travail précédent, c'était sur la question des Algériens qui ont travaillé dans les mines à Saint-Étienne. Et donc, j'ai fait du recueil de témoignages oraux et d'archives familiales auprès de familles d'anciens mineurs ici à Saint-Étienne, mais aussi, enfin, ou sa région, et aussi en Algérie. Et alors, si c'est difficile d'avoir une collecte auprès du grand public, c'est encore plus difficile quand on est sur des publics qui, effectivement, ont un problème avec la légitimité de leur parole. Et autant cette démarche peut les flatter beaucoup, autant ça leur fait aussi très peur. Et quand effectivement, on a des administrations en face, les archives, c'est pour eux des administrations, c'est un peu la force publique. Ça les impressionne beaucoup et ils n'ont pas du tout envie de déposer. Donc, du coup, l'échelle du chercheur, avec son aura universitaire qui l'handicape beaucoup. Mais bon, après, on peut avoir un peu de feeling, on fait passer d'autres choses, on y arrive, mais c'est quand même handicapant aussi. Mais du coup, l'échelle associative, elle est très, très, très précieuse pour ça, parce que l'association, elle est dans cet entre-deux. Et du coup, elle est précieuse. Alors moi, j'essaye de mettre ça en place pour ce nouveau projet où effectivement, on va travailler avec les archives municipales et le centre du Babet pour justement nous servir un peu d'intermédiaire sur le quartier de Beaubrun et puis travailler avec des associations communautaires qui nous font confiance et qui... Mais enfin, c'est très, très, très long. Voilà. Et alors, effectivement, ce qui marche très bien, c'est ce que j'ai testé moi sur ce précédent travail et sur le travail actuel, c'est la question de l'intergénérationnel. Pourquoi ? Parce que d'une part, on a moins peur de parler à un jeune et qu'en plus, du coup, ça donne une dimension supplémentaire à ce qu'on va raconter et aux traces qu'on va donner. Et alors, j'avais travaillé dans le quartier de Terre-Noire et le quartier de Montaut. Jean-Marc, juge, est là pour en juger, pardon, du jeu de mots, et en témoigner plutôt. Et donc, on a fait travailler des enfants avec des établissements scolaires les artistes aussi, parce que les artistes, c'est aussi un bon média, un bon médiateur, un bon intermédiaire. Et donc, les témoins ont accepté de travailler avec nous parce que c'était des jeunes qui les interrogeaient et que du coup, ils avaient l'impression qu'ils allaient vraiment transmettre. C'était plus, beaucoup plus concret pour eux. Et ça a vraiment du coup donné des témoignages extrêmement riches et sensibles et qui ont vraiment profité à tout le monde.
Voilà, moi je crois que quand on veut avoir des archives, il faut un peu créer l'événement et raconter l'histoire. Hein, pour l'avoir fait sur Rive-de-Gier, à travers des expositions sur les femmes dans la guerre ou les choses comme ça, c'est à partir de ces événements-là que les gens venaient, nous contactaient et nous apportaient de la documentation. Moi, j'ai eu des photos, des lettres, etc., qu'on m'a amenées parce que je parlais d'événements qui s'étaient produits sur Rive-de-Gier. Et à partir de là, ça créait, on va dire, des liens. Hein, j'ai vu revenir des gens que je n'avais pas vus depuis presque 50 ans, hein, qui venaient me voir et qui me disaient « Mais voilà, on t'apporte parce qu'effectivement, on n'avait pas pensé que c'était des archives et tout. » Donc, c'est un peu... la même chose, j'ose pas dire comme des artistes, hein, parce qu'il faut pas exagérer, mais je crois qu'il faut créer des événements plutôt que de faire appel sèchement à des archives. Hein. C'était à l'occasion d'un événement. Hein. Voilà. Et puis, sur le fait de garder des archives, de les conserver, de ne pas vouloir les communiquer, c'est finalement un problème aussi de délai de retour de l'archive. Hein, pour avoir déposé parfois des archives et avoir voulu les consulter à un moment où on en avait besoin, eh bien, l'archive n'avait pas encore été classée et on n'en avait pas le retour. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut le résoudre, j'en ai parlé à midi, en disant, en déposant, faire également une note disant que l'association qui dépose où la personne qui dépose peut à tout moment avoir accès à son carton, hein, même s'il n'est pas classé. C'est le cas.
Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que les méthodes ont pu évoluer, parce qu'avant, je ne sais pas si vous parlez des archives départementales, mais l'idée était, on avait un très très gros retard de classement. Donc, si on se mettait sur un fonds, c'est pour un classement définitif. Maintenant, on a quand même, je remercie Nicole Noisette, bien avancé. Donc, on peut consacrer un peu plus de temps et procéder en deux étapes. C'est-à-dire que quand un fonds entre, on fait ce qu'on appelle un récollement. Alors, ce n'est pas très pratique, ce n'est pas dans l'ordre, etc. Mais au moins, on sait à peu près ce qu'il y a dans chaque boîte, à peu près. Et du coup, ça permet la communication. Alors, on ne la donne pas quand même à tout public, parce qu'il y a des questions de sécurité, on ne donne pas quelque chose de mal identifié, mais aux membres de l'association, sans problème, c'est coté, c'est dans la machine et on peut communiquer. Mais effectivement, maintenant, on fait ce qu'on appelle le récollement, l'état numérique, récollement, voilà, ça, plusieurs termes, et dans un second temps, qui nous permet d'avoir déjà un premier état des lieux, et on fait le classement dans un second temps. Voilà.
Juste une précision, vous avez dit que le déposant n'a pas l'autorisation, n'a pas l'accès à son fonds. Je suis surpris de cette affirmation-là, parce que c'est une erreur. C'est le déposant, même si ce n'est pas classé, a forcément accès à son fonds.
Alors, avoir une réponse comme ça qui a été donnée en salle de l'école.
Oui, mais la réponse est évidente, c'est oui, un déposant ou un propriétaire, même si le fonds n'est pas classé, a accès à son fonds. Enfin, c'est une évidence. Par contre, effectivement, les gens qui ne sont pas, qui sont pas concernés n'ont pas accès, sauf de manière exceptionnelle ou limitée, parce que. Du moment où ils sont identifiés et puis qu'il y a quelque part une lettre de mission du président de l'association, évidemment, on peut pas non plus. C'est très facile sinon d'arriver en salle de lecture. Je suis membre de l'association Tintin, je veux accès au fond. Voilà, ça évidemment, mais ça, il faut se mettre d'accord sur les modalités. Mais je suis surpris quand même de cette affirmation-là.
Ce qui fonctionne, oui, c'est bon.
Oui, peut-être est-il important de revenir au point de départ, hein, c'est-à-dire ce que tu as évoqué, Jean-Michel, sur la légitimité, la nécessité de légitimité de l'histoire ouvrière, et le relier à la question des archives. Nécessité de l'histoire ouvrière, c'est être en capacité d'avoir un discours qui est, pour employer une expression un peu juridique, opposable au tiers, c'est-à-dire qui se coule dans les règles académiques. Et parmi ces règles académiques de l'histoire, il y a la capacité à citer les sources, la traçabilité des fonds et le repérage de ceux-ci. Alors, tant que ces sources sont des archives privées dispersées dans des assos, des entretiens faits à droite et à gauche dans des conditions qui ne respectent pas les règles, cette parole sera toujours dévalorisée. D'autant que, comme tu le disais aussi, ça a été souvent une histoire militante, sujette à caution. Donc, de l'importance de déposer, de l'importance de classer, de l'importance de savoir où sont les fonds, de façon à ce que, éventuellement, pour vérifier la parole en question, on puisse y accéder, de l'importance de cette mise en commun des archives, mais selon des règles, qui sont des règles acceptées par tous et reconnues par tous.
Bien. Je vous propose de terminer sur ce point-là, sur ce presque un rappel à l'ordre, j'exagère, mais donc un rappel un peu aux procédures de recherche. Donc je voudrais terminer sur deux choses avant de laisser la parole terminale à Jean-Michel. Donc premier élément, c'est le rappel que le 4 décembre à 19h30, à la Bourse du Travail, il y aura donc une intervention croisée ou complémentaire, enfin bref, de Jean-Michel Steiner et de Xavier Vignat, tous les deux sur les questions de l'histoire ouvrière, du mouvement ouvrier. Et d'autre part, il me semble qu'au-delà de l'expérience, enfin du compte-rendu, d'expérience, des difficultés des uns et des autres, il me semble qu'il y a un accord, un consensus implicite au moins qui s'est fait sur les phénomènes de mutualisation et de collaboration, et qu'au moins on peut reprendre la proposition concrète qui a été faite à un moment donné, hein, c'est-à-dire le fait que les archives municipales ou départementales disons, ont été d'accord sur le fait d'organiser au moins une demi-journée d'information en direction des associations sur les techniques minimales d'archivage. Et donc, ce que je vous propose, c'est, si vous ne l'avez pas fait, de vous inscrire, de mettre votre nom auprès, je crois, de Jean-Paul, pour qu'il ait vos coordonnées, afin que les archives puissent prendre contact avec vous et vous informer de ces dates, de la date ou des dates, ils verront, donc de la date ou des dates de ces deux journées, ou demi-journées, pardon, hein, de cette demi-journée d'informations plus techniques sur ces procédures. Et pour terminer, je passe la parole donc à Jean-Michel.
Bien, en tant que président du Grémos, je voudrais remercier toute l'assistance pour la qualité du débat et pour la présence, pour donc ces échanges qui ont été très fructueux. Et cette journée, nous l'avons intitulée « Deuxième rencontre autour de l'histoire ouvrière ». L'année dernière, nous avions fait un colloque qui était sur la crise dans le bassin stéphanois dans les années 60-70. On n'avait pas encore employé cette expression « rencontre autour de l'histoire ouvrière », mais ça émerge petit à petit. Donc, on a l'ambition de pérenniser ces rencontres annuellement et de les étendre un petit peu à l'échelle régionale, puis pourquoi pas nationale, pour en faire un événement qui permettrait de signaler que Saint-Étienne a un passé et une histoire ouvrière. Voilà, je vous remercie et à l'année prochaine.